Je voudrais remercier de tout cœur le comité d'évangélisation de la région du Centre pour son aimable invitation à venir partager ces soirées d'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous réjouisse, vous fasse énormément de bien. Ceci étant dit, nous poursuivons sur notre lancée. En même temps que sur le thème que vous savez, prépare ton avenir. Et le sujet de ce soir se situera dans le droit fil de ce sujet, puisque nous allons parler du retour de Jésus-Christ. Il est rare que je ne termine pas une série d'évangélisations en prêchant qu'il revient, le Seigneur. Et qu'il est important que nous nous préparions à cet immense événement qui changera la face des choses. Et le chrétien, lui, bien entendu, se nourrit sa foi de cette immense espérance. Pour introduire ce dernier sujet, lisons quelques versets dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 16e. Les textes qui suivent. Nous allons laisser juste notre ami. Voilà, merci. 2 Pierre 1:16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. L'apôtre Pierre ayant été, comme vous le savez, un témoin oculaire du Christ, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix. Il a donc été également un témoin auriculaire. Lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Depuis le premier soir, nous avons lu dans un livre qu'il est convenu d'appeler la Bible. Et pourquoi avons-nous lu dans ce livre et pas dans un autre livre? Parce que nous croyons que ce livre est le livre de Dieu. Nous croyons qu'il est inspiré de Dieu de son début à son terme. Et qu'en cela, il tranche de façon radicale d'avec les autres livres. Ce livre n'est pas tant un livre dans lequel des hommes nous entretiennent de Dieu, nous livrant comme cela en pâture le fruit de leurs réflexions ou de leurs cogitations personnelles sur Dieu. Ça n'est pas du tout cela. Ce livre n'est pas tant un livre dans lequel des hommes nous parlent de Dieu. C'est un livre dans lequel Dieu nous parle des hommes, en même temps que de lui-même, afin que nous puissions apprendre à le connaître, ayant inspiré des hommes pour qu'ils nous livrent sa parole, son courrier de façon remarquable. Alors, quelqu'un dira-t-il, oui, mais quand même, ce sont des hommes qui l'ont écrit. Certes, ce sont des hommes qui l'ont écrit, mais ces hommes n'ont pas écrit ce qui leur passait par la tête à propos de Dieu, certainement pas, heureusement d'ailleurs. et je prends souvent l'illustration suivante. L'une de mes filles est secrétaire au bureau, à Paris. Et ma secrétaire, qui est en même temps notre troisième fille, n'écrit pas ce qui lui passe par la tête au sujet de son père, qui est en même temps son patron. Je ne pourrais pas la garder. Sylvie n'écrit que ce que je lui dicte ou inspire d'écrire. Sinon, je serais contraint de la licencier. Heureusement, ça n'est pas ce qu'elle fait, hein. Soyez rassurés. C'est un peu de cette façon-là que le Seigneur s'est pris, et pourquoi pas des secrétaires, pour nous livrer son courrier. Et couramment, nous avons coutume de dire que ce livre est véritablement le courrier de Dieu à notre génération. Et quel courrier ! Ce livre est un livre signe, un livre signe de Dieu pour notre génération. Ce livre nous est venu d'un peuple signe, le peuple d'Israël, auquel a été confié justement les oracles de Dieu. Et quelle bénédiction que nous ayons ce soir ce livre entre les mains, et qui plus est en français. Parce qu'il en est qui attendent encore que ce même livre soit traduit dans leur dialecte ou dans leur langue. Et réjouissons-nous de ce que nous pouvons précisément l'avoir en langage clair. Le livre de Dieu. Et savez-vous que dans ce livre, une page sur trois est prophétique. C'est absolument énorme. Aucun autre livre religieux ne peut lui ressembler sur ce plan. Et évacuer la prophétie de ce livre reviendrait à éliminer le tiers de ce livre, pratiquement. Imaginez. Oui, un livre qui nous parle d'hier, certes. Un livre qui nous parle d'aujourd'hui, et nous l'avons vu au cours des soirs passés, le premier soir, nous avons affirmé que nous vivons au sein d'une génération qui verse dans la déprime et qui est saisie d'angoisse et qui ne voit pas d'issue à ces angoisses. Nous avons donc parlé de notre actualité sous un éclairage biblique, en même temps qu'évangélique. Hier soir, nous avons traité de ce grand sujet du scandale du sang contaminé. Encore une actualité. Ce soir, nous regardons vers demain. Avec ce livre, pour nous éclairer quant à notre avenir, prépare ton avenir. Et la meilleure façon de s'y préparer à notre avenir, c'est précisément de voir un peu ce que ce livre nous en dit. C'est un vieux livre que ce livre. Pourtant, il est, comme vous le savez, aujourd'hui le best-seller mondial. Ça veut dire quoi ? Qu'aucun livre ne se diffuse, ne se vend, ne s'achète autant que celui-là. Comment comprendre qu'un livre qu'on a commencé d'écrire voilà quelque 3500 ans, et qu'on a fini d'écrire, voilà, à peu près 2000 ans, comment comprendre qu'un tel livre soit aujourd'hui le livre le plus lu au monde, le plus vendu, le best-seller mondial? La seule explication est que ce livre est le livre de Dieu, ayant traversé les siècles sous la protection de Dieu, afin que nous puissions l'avoir en main aujourd'hui, non seulement en Belgique, mais un peu partout dans le monde. Et c'est ce qui me frappe pour ce grand voyageur devant l'Éternel que je suis, c'est que partout où j'ai l'occasion de me rendre, en Afrique, au Québec, où je me situais ces jours derniers, ou ailleurs, ce livre est là, avec son message transformant des vies, sauvant des hommes et des femmes qui s'approchent de Jésus-Christ dans la repentance et dans la foi pour leur salut. Et ce livre nous entretient donc de façon abondante de l'avenir. Il existe des documents qui ont à peu près l'âge de ce livre, et même, je pense à un document qui est antérieur à ce livre, le Code d'Hammurabi. Hammurabi ayant été le fondateur de l'Empire babylonien, comme vous le savez. Il a écrit un code. Hammurabi a été légèrement antérieur à Moïse. Un code qui a certainement un intérêt au plan historique et archéologique, mais permettez cette question. Lequel d'entre nous a avec lui, en format de poche, ou chez lui à la maison, le code d'Hammurabi? Levez la main. Vous avez le code d'Hammurabi en format de poche chez vous ou sur vous dans vos sacs, mesdames. Le code d'Hammurabi, je dis bien. Haut la main. Personne? Aucune main? Moi non plus. Mais que voulez-vous que nous fassions du code d'Hammurabi? Si vous nous faisiez un jour l'honneur d'une visite à Paris, je pourrais vous conduire au musée du Louvre, où ce code est exposé, il est visible, gravé sur du granit. Mais que voulez-vous que nous fassions du code d'Hammurabi aujourd'hui à la Louvière? Ce serait une véritable histoire belge. Mais nous n'avons rien à faire avec ce code. Je suis convaincu que si la Bible n'avait aucun message à nous porter, il y a belle lurette que, comme le code d'Hammurabi, elle aurait, il y a belle lurette, fini dans quelques musées du monde pour s'y couvrir de poussière. Mais parce qu'elle nous porte un message d'une actualité remarquable, et parce qu'elle nous entretient déjà de demain, ce livre est le best-seller mondial, qui couvre trois périodes, celle du passé, celle du présent et celle de l'avenir. Ce livre est bourré de prédictions. Et il semble que de nos jours, nous soyons très friands de prédictions. D'où ce certain succès de l'horoscope. Il paraît que le Français achète son journal, en particulier le Parisien, j'espère que ce n'est pas votre cas, d'abord pour les mots croisés. D'abord pour l'horoscope, ensuite pour les mots croisés, et enfin pour les nouvelles. Est-ce que c'est la même chose ici en Belgique? Mais oui, parce que nous vivons au sein d'une génération prête à tout gober. Tellement elle cherche désespérément un chemin qui vaille, une route, quelque chose de sûr. Alors nous donnons dans toutes les directions et jusque vers ces sciences qu'il est convenu d'appeler les sciences occultes pour aggraver notre cas. Tandis que la Bible est la source de prédiction et d'enseignement qui ne s'est jamais trompé. Est-ce que vous avez bien entendu cela? Vous permettez que je répète? La Bible est la source de prédiction, d'information et d'enseignement qui ne s'est jamais trompé. Les prédictions humaines ne valent rien. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont aucun fondement solide. Sinon les hommes, qui sont des pécheurs, et la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul pour vrai. Pourquoi souvent sommes-nous plus enclins à croire l'homme qui est menteur qu'à croire ce Dieu que la Bible appelle le Dieu de vérité, ou qu'à croire le Christ qui s'est présenté à nous voilà 2000 ans comme ayant été la vérité de Dieu incarnée parmi les hommes? Dieu voudrait que nous lui fassions éperdument confiance parce qu'il nous a tenu le langage de la vérité. Le Christ l'a cru dans une parole à son Père, dans une prière à son Père. En Jean 17, 17, le Christ a pu dire « Ta parole est la vérité ». Le Christ l'avait cru en son temps, il y a 2000 ans sur cette terre. tandis que les hommes, la plupart du temps, font encore la fine bouche. Et ils préfèrent croire les hommes qui sont menteurs que de croire le Dieu qui est la vérité dans sa personne. Mais quel dommage! Ce livre, donc, la source de prédictions, d'informations et d'enseignements qui ne s'est jamais trompé. Imaginez que des peuples entiers, des nations, dans le passé, comme c'est encore le cas de nos jours, se sont dressés et se dressent encore contre ce livre pour l'évacuer. Et ce livre a traversé les siècles, il nous a atteints et il est le best-seller mondial. Ceci me fait penser à un empereur romain du nom de Dioclétien, d'où nous est venu le terme diocèse, parce qu'il avait organisé son empire en diocèse. Et c'est après coup que l'Église avait un peu copié son organisation. L'empereur Dioclétien, en l'an 303, après Jésus-Christ, s'en était pris aux manuscrits assez récents du Nouveau Testament. Et il avait voulu mettre un terme au christianisme. Savez-vous comment il s'y était pris? Il avait fait dresser un arc de triomphe sur une Bible en lambeaux. Et il avait fait écrire sur cet arc de triomphe « Extincto nomine Christianorum ». Le nom des chrétiens est à jamais effacé. Le pauvre, s'il avait su qu'il y aurait des chrétiens dans la région du centre en Belgique, est-ce qu'il se serait donné, aujourd'hui, hein, est-ce qu'il se serait donné une telle peine? Ah, ces hommes. Ces hommes sont incorrigibles, ils se dressent contre Dieu. Ils n'en ont souvent pas conscience, mais vous savez, qu'est-ce qu'un empereur romain comparé à Dieu? Je disais donc que ce livre est bourré de prédictions. La Bible, nous l'avons entendu, nous a fait savoir tout à l'heure qu'il contient la parole prophétique, plus que n'importe quel livre. Et combien nous avons besoin de cette parole prophétique pour être éclairés dans la nuit de ce monde, hein. Et l'apôtre d'encourager, vous faites bien de prêter attention à cette parole prophétique. Voilà pourquoi ce message, ce soir, si comme moi vous vous êtes penché, alors là, je voudrais préciser, aucune critique, personne n'est visé dans ce que je vais dire, nous sommes très respectueux des autres religions, des croyances, et ce, d'autant que ça n'est pas une religion que nous prêchons jamais, mais une personne, celle du Sauveur, comme l'avait fait par exemple Pierre, l'apôtre, lequel avait dit « Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que le sien qui nous a été donné et par lequel nous devions être sauvés. Depuis le premier soir, nous avons prêché Christ, Christ encore et Christ toujours. » Mais si comme moi vous vous êtes penché sur les Védas, quelque peu, lesquels la plupart du temps sont réservés à une caste d'initiés, ou encore sur le Coran des musulmans. Mais rien n'est prophétique dans ces ouvrages religieux, pratiquement rien. Tandis que dans ce livre, je le disais tout à l'heure, une page sur trois est prophétique. Et savez-vous que dans une grande mesure, l'Écriture sainte fonde son autorité, sa véracité, son authenticité sur la prophétie qu'elle renferme. Pourquoi? Parce que dans sa grande majorité, la prophétie s'est trouvée être réalisée dans un détail qui force l'admiration. Quand on parle de prédiction, il faut bien entendu dire qu'il y a prédiction et prédiction. Nos astrologues ne cessent de nous prédire notre avenir, immédiat ou lointain. Mais la plupart du temps, vous savez comment ils le prédisent, cet avenir? en même temps que l'horoscope. De la façon suivante, pour l'illustrer, c'est comme si, par exemple, voulant jouer les météorologues, je vous disais, pour demain, il va faire beau. Un pronostic météorologique. Bon, j'ai au moins 50% de chance que ça se passera. D'autant qu'il fait beau en France. Hein. Et que, j'allais dire, ce beau temps est en train de vous gagner, là. De gagner votre ciel, hein, qui, depuis le début de la rencontre, n'a cessé d'être gris, gris encore, et gris toujours avec des amis. Tout à l'heure, nous avons crié au miracle. Hein. Les miracles existent jusqu'en Belgique. En tout cas, si je vous disais, demain il fera beau, oui, j'ai au moins une chance sur deux que ça se réalise. Mais c'est la plupart du temps de cette manière-là que les hommes prédisent. Il n'y a rien d'extraordinaire et ça peut tomber juste une fois sur deux sur l'un d'entre nous, étant donné ces milliards que nous sommes sur toute la surface de la Terre. Mais si je vous présentais un autre pronostic quant à demain, si je vous disais par exemple pour demain, il fera beau entre 7 et 10 heures, puis pluvieux de 10 heures à 13 heures, ensuite, variable entre 13h et 18h, beau à nouveau entre 18h et 22h, et puis à partir de 22h, la neige. Enfin, je ne vous la souhaite pas. Hein. Alors là, mon pronostic aurait beaucoup moins de chances de se réaliser. Pourquoi ? À partir de cette règle qui veut que plus une prédiction a de détails, moins elle a de chances de se réaliser. Or, ça n'est pas comme cela que nous prédisent l'avenir, nos horoscopes et tout ce que vous voulez. Or, dans ce livre, Dieu n'a pas du tout lésiné sur le détail. Quand nous pensons, par exemple, à la première venue de Christ sur cette terre, mais quel détail! Quel détail! Vous savez qu'à l'heure qu'il est, les Américains sont littéralement pris d'engouement pour une certaine voyante du nom de Debbie, je crois que c'est Debbie. Bon, en tout cas, restons-en là. Hein. Imaginez qu'ils sont devenus littéralement fous d'elle, surtout les hommes d'affaires, parce que cette voyante avait prédit le krach boursier des années passées, hein, qui avait secoué toute la planète sur un plan économique. Et depuis, justement, cette prédiction, les hommes d'affaires là-bas, littéralement, la consultent, le journal de Wall Street lui a ouvert ses colonnes, et 40% de sa clientèle est faite d'hommes d'affaires. Seulement, voilà, plusieurs se sont penchés sur ces prédictions et, disons, ont vu qu'elles pouvaient dire vrai à peu près au taux de 5%. 5% de ces prédictions, oui, peuvent se réaliser. Et c'est en raison, justement, de ces 5%, de réussite au niveau de ces prédictions que les Américains ont été pris d'engouement pour elle. Mais pour celui qui vous parle, si Debra Lynch, pardon, voilà, j'ai son nom maintenant, si Debra Lynch dit vrai 5% du temps, pour moi, elle dit faux 95% du temps. Est-ce que vous feriez confiance à un médium qui se tromperait 95% du temps? Quelle explication ! Nous sommes complètement déboussolés. Nous sommes complètement à côté de la plaque. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Mais quand la Bible donne des prédictions, ça n'est jamais à ce taux-là. Ça n'est pas du 5% du temps, ni du 50% du temps. C'est du 100%. la source de prédictions et d'informations qui ne s'est jamais trompée. Alors pourquoi courir vers l'horoscope quand ce livre dit la vérité? Et quand on le sait, quand on en est convaincu, quand on ne cesse de le découvrir, le reste ne nous intéresse plus. Imaginez que ce livre qui est fait de deux parties, comme vous le savez très certainement, c'est-à-dire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ce livre déjà dans l'Ancien Testament avait annoncé la première venue de Christ, voilà 2000 ans, en Palestine, dans un détail absolument fou de précision. Imaginez par exemple, pour vous dire que la Bible n'a pas du tout lésiné sur les prédictions concernant la première venue de Christ des siècles avant l'événement. C'est comme si, à l'heure qu'il est, nous donnions des prédictions pour l'an à peu près 2700. À partir d'Ésaïe le prophète, lequel avait annoncé que le Christ, le Messie, naîtrait d'une vierge. Est-ce que ça s'est passé cela ? Mais quel détail ! Est-ce qu'il arrive aux hommes de naître d'une vierge comme cela couramment de par le monde et dans la région du centre ici, en Belgique ? Il fut aussi annoncé par Michée le prophète qu'il naîtrait où ? Des siècles avant l'événement. À la Louvière ? Non. À Bethléem. Et nous savons qu'il est venu au monde à Bethléem, né de la Vierge Marie. Zacharie le prophète, je vais passer plus vite, avait annoncé pour sa part qu'au jour des rameaux, le Christ entrerait à Jérusalem. Comment ? En deux chevaux. Non. Assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, des siècles avant l'événement. Et nous avons fêté les rameaux il n'y a pas encore tellement longtemps. Nous nous sommes rappelés l'événement. Mais imaginez des prophètes saisis par Dieu qui ont donné un détail époustouflant de précision. Et puis encore, il fut écrit bien avant l'événement que le Christ serait trahi par un ami, qu'il serait abandonné de ses disciples, et nous savons que tout cela s'est passé, et qu'il serait vendu pour combien ? Pour 30 pièces d'argent. À Jérusalem, avec mon épouse, il y a peu de temps, le guide nous avait montré le champ du potier, justement, hein, qui avait été acheté grâce à cet argent, grâce à ces 30 pièces d'argent. Et toujours l'Ancien Testament avait annoncé qu'on lui cracherait au visage des siècles avant l'événement, qu'on lui donnerait des coups de fouet, que même on lui tendrait du vinaigre aux heures sombres, hein, du sacrifice. Tout ceci s'est passé. Gardez à l'esprit ce que nous avons dit tout à l'heure. Plus une prédiction a de détails, moins elle a de chances de se réaliser. Et puis, au psaume 22, ce David qui avait pu pousser le cri du Seigneur sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et ce qui est littéralement étonnant au psaume 22e, c'est que David avait prédit quoi ? La crucifixion. Quelques 1000 ans avant le Christ. Alors que la crucifixion était un supplice totalement inconnu en Palestine et qui n'était arrivé dans cette région du monde qu'avec les Romains, quelques courtes années avant le Seigneur. Mais comment David a-t-il pu parler de la crucifixion ? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Comment a-t-il pu encore dire, annoncer que sa tunique serait jouée au sort ? Mais quel détail, quelle précision, ceci pour que vous puissiez faire confiance dans ce livre, parole de Dieu. Et que tous les doutes vous quittent, afin qu'à partir de ce soir, vous puissiez réellement commencer une lecture sérieuse, assidue du livre de Dieu qui vous apporterait énormément. Bien entendu que sa mort expiatoire pour nos péchés fut annoncée aussi dans cet Ancien Testament, notamment par Ésaïe le prophète au chapitre 53, qui était allé jusqu'à préciser qu'il mourrait pour nos péchés. qu'il serait blessé pour nos iniquités, des siècles avant l'événement. Et puis sa résurrection aussi fut annoncée. Son ascension fut annoncée. À telle enseigne que pour ce qui est de son schéma, du schéma du Christ, au plan prophétique, tout a été annoncé. Et la réalisation de ce schéma s'est faite au taux de 100%. Fantastique. Ceci n'a rien à faire avec les prédictions des hommes. Nous tenons, a dit Pierre, pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Mais que manque-t-il en fait à ce schéma prophétique pour sa pleine réalisation, le retour de Christ, qui ne s'est pas encore réalisé et qui est la grande espérance de l'Église, le Christ ayant lui-même annoncé dans les évangiles qu'il reviendrait. Ce fut réellement avec autorité qu'il avait pu annoncer ces choses. Mais restons-en encore quelques instants dans l'Ancien Testament. À partir de tant de prédictions, mais alors on aurait dû être là pour l'attendre. L'Évangile était tellement contenu dans l'Ancien Testament. Comment comprendre que lorsque le Christ naquit de la Vierge Marie, que lorsque des mages étaient venus d'Orient, n'est-ce pas, pour le roi des Juifs, ceci avait surpris tout le monde, si l'on excepte Siméon, Anne la prophétesse et quelques autres, mais la naissance du Christ, malgré ce nombre de prédictions, avait surpris tout le monde. Ah, il me semble que si le Seigneur devait revenir ce soir, alors je ne dis pas qu'il revient ce soir, hein, mais s'il devait revenir ce soir, ne pensez-vous pas que il en serait de même pour nous, que notre Occident dit chrétien serait surpris par son retour? Et pourtant, le Nouveau Testament cette fois, nous passons au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a abondamment parlé de ce retour. Savez-vous combien de fois il est fait allusion dans le Nouveau Testament au retour de Christ? Quelque 318 fois. C'est énorme. Je prêchais ceci il y a peu de temps dans une église de la région parisienne, une église de l'Alliance des Églises évangéliques indépendantes, et le pasteur qui était au premier rang, qui avait entendu ce chiffre, avait levé la main pour me reprendre et me dire, hey, « Alain, moi j'en ai compté 319. » Alors je lui dis, « On est d'accord. » Mais c'est énorme. Est-ce que le Christ est attendu? Même dans la chrétienté? S'il revenait aujourd'hui, ne serions-nous pas surpris dans cet Occident dit chrétien? Nous vivrions tout à fait ce que les Juifs ont vécu. Nous en serions surpris. Et pourtant, imaginez que c'est sur ce sujet-là, et ceci peut même surprendre les chrétiens, pourtant c'est vrai, vérifiez-le vous-même. C'est sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur le sujet de son retour, des signes des temps que le Seigneur s'est le plus étendu. Des chapitres entiers dans nos évangiles sont consacrés à ce retour. Matthieu 24, Matthieu 25, Luc 17, Luc 21, Marc 13. Mais voilà pourquoi je m'intéresse au retour de Christ. Et puis ce retour de Christ a figuré dans le symbole des apôtres, dans ce qu'il est convenu d'appeler le credo. Il en est question. Mais est-ce qu'il est attendu par ceux qui régulièrement le prononcent, ce credo? Ah, nous voilà réellement pris au piège. Hein, nous croyons réellement que le Christ doit revenir. Ceci représentant une doctrine importante, le retour de Christ se situant au centre du christianisme et de l'Évangile. Ce retour de Christ ayant nourri l'Église première dans son espérance et sa foi. Il faut qu'il en soit de même pour ce qui est de nous aujourd'hui. Ceci est important. Le Christ vient bientôt. Que j'aime cette phrase, n'est-ce pas, ce verset d'Apocalypse 1:7 qui dit « Voici, il vient ». Ceci m'a étonné, voyez-vous. Il vient sur des nuées. Notez bien que Jean n'a pas dit « Voici, il viendra ». Il n'a pas employé cette expression-là. Il n'a pas employé le futur. Il a dit « Voici, il vient ». Ceci signifiant que le processus de son retour est déjà engagé. Et quand a-t-il été déjà engagé le processus du retour de Christ ? Eh bien, avec la première venue du Seigneur, laquelle a représenté, en quelque sorte, la dernière tentative de Dieu vers un monde perdu pour le ramener à lui par son propre Fils. Voilà pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu a envoyé son Fils. Alors les derniers temps ont commencé avec la première venue de Christ. Et non seulement Jean l'a dit, mais Pierre l'a dit aussi, et d'autres avec lui. Voici, il vient. Non pas il viendra. Le processus est déjà engagé, il est en route. Et nous sommes appelés à aimer cet avènement. Est-ce que nous aimons nous entretenir du retour de Christ ? Où en est-elle l'Église du Seigneur aujourd'hui ? Où en est-elle cette Église qui se dit chrétienne et qui n'attend plus rien ? La Bible nous enseigne que l'Église, à l'heure qu'il est la fiancée de Christ. Mais à ce point fiancée au Christ qu'elle est déjà considérée comme son épouse. Mais l'apôtre a précisé aux Corinthiens qu'il les avait fiancés à un seul époux comme une vierge pure. L'Église est fiancée au Seigneur et elle s'achemine lentement vers ce que la Bible appelle les noces de l'agneau, c'est-à-dire vers son union à son époux, avec son époux. Alors, que diriez-vous d'une personne à laquelle vous poseriez la question suivante, par exemple, à une demoiselle, « Mademoiselle, vous êtes fiancée ?»« Oui, mais vous l'êtes fermement. »« Mais oui, je le suis. »« Les noces, c'est pour quand ?»« Ah bon, parce qu'il doit y avoir des noces. » Ah, nous en sommes souvent là. Mais ne savez-vous pas que le Christ doit revenir ? Vous posez la question. Si souvent posé à nos amis français, là, est-ce que vous êtes chrétien ? Oui. Est-ce que vous attendez qu'il revienne, le Seigneur ? Et pourquoi ? Il doit revenir. Mais pourquoi cette immense espérance a-t-elle été évacuée ? Oh, la Bible dit que le chrétien, même âgé, n'attend pas la mort. Il attend quoi ? Le déluge. Non. Il attend le retour de Christ. Et il est important que réellement nous l'attendions. Alors si vous ne l'attendiez pas, si vous aviez devant vous simplement un horizon apocalyptique, parce qu'il est apocalyptique, notre horizon, faites le point sur ce qui est votre foi en Christ, votre espérance en lui, parce que l'horizon du chrétien est lumineux. Le Christ revient. Et la Bible dit « car le Seigneur lui-même, 1 Thessaloniciens 4:16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Nous, les vivants qui serons trouvés debout, hein, dans ce grand jour, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts en Christ, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être toujours avec le Seigneur. Mais c'est cela qui a nourri l'espérance de l'Église première comme l'espérance de l'Église au fil des siècles. Ah, si vous saviez à quel point Alain Chouacquier attend le retour de son Sauveur. Voilà pourquoi je prêche l'Évangile. J'allais dire comme pour le athée, parce que peut-être que le dernier païen là, peut-être le dernier belge, qui doit être sauvé le sera ce soir dans ce lieu. Nous n'en savons rien. Alors quand le nombre, j'allais dire, des chrétiens formant l'Église sera réalisé, la Bible dit que le Seigneur reviendra, prendra lui les siens, pour qu'il les ait avec lui, et pour qu'il puisse, avec son Église, convoler en juste noces dans son ciel de gloire, dans une lune de miel. Est-ce que vous y serez, vous, dans cette lune de miel, avec le Seigneur, une lune de miel spirituelle? Ah, je me souviens de ce pasteur d'une église libre, à la Costette, là, au Mazet-Saint-Voix, où je me situais il y a 15 jours, pour une série sur la prophétie. Ce pasteur qui m'introduisait et qui avait dit à l'auditoire, très nombreux là, dans cette grande salle de la Costette, « Lorsque j'entendais parler du retour de Jésus-Christ, j'étais étudiant à Nogent. Et je souhaitais ardemment qu'il lui vienne l'idée au Seigneur de reporter son retour jusqu'à mon mariage. Et je me souviens de cette demoiselle qui m'avait dit, là, moi aussi je voudrais quand même, vous dites qu'il est là bientôt, je voudrais quand même en arriver au mariage avant d'être dans sa présence pour l'éternité. Oh, mais le Seigneur ne se trompe pas, son jour, je suis sûr qu'il le sait, hein. Dans quel jour il reviendra, en tant que Dieu, il sait tout. Il a volontairement ignoré la date de son retour en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, si Dieu ignore quelque chose, il n'est plus Dieu. Et nous croyons que le Fils de Dieu est Dieu dans la plénitude, dans toute l'acception du terme, au même titre que Dieu le Père. Il est vrai que je suis marié, et depuis 34 ans, mais je souhaiterais qu'il revienne ce soir. Mais si le Seigneur revenait ce soir, est-ce que vous iriez avec lui? Est-ce que vous partiriez avec lui? La Bible dit qu'il vient prendre à lui comme pour la voler, littéralement. Son Église, c'est le terme qui est employé dans le texte que je viens de rappeler en 1 Thessaloniciens 4:16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, n'est-ce pas? Viendra prendre à lui les siens et nous serons enlevés à lui. Et le terme enlevé, là, en grec, est assez remarquable, parce que c'est le mot, pour ceux qui en ont fait un peu, comme c'est mon cas à nos gens, lorsque j'y étais étudiant, moi aussi, c'est le mot arpazo, qui signifie, en grec, pratiquement voler, ravir, prendre à soi, à la limite de façon assez brutale. Alors le Seigneur nous viendra nous ravir, il viendra nous voler. Et il est curieux que le Seigneur, à plusieurs fois, se soit comparé à un voleur, en Apocalypse 3:3. Il a dit « Je viendrai comme un voleur ». Il est curieux que le Seigneur se soit comparé à un voleur. Il répète cela en Apocalypse 16:15. « Voici, je viendrai comme un voleur ». Et il a même dit dans l'une de ses paraboles de son retour en Matthieu 24:42 qu'il viendrait à l'improviste, de façon soudaine, inattendue, comme un voleur. Alors n'attendez pas qu'il vienne et qu'il revienne comme un voleur, parce que vous n'aurez pas le temps à ce moment-là de vous y préparer. La Bible nous demande de nous y préparer aujourd'hui, parce qu'il faut que nous soyons sauvés pour être sûrs d'aller avec lui dans son ciel de gloire. Ah, ceci me fait penser à ce grand savant américain auquel nous devons d'être éclairés dans ce lieu, qui est donc l'inventeur de l'ampoule électrique en même temps que l'inventeur de l'ancêtre du magnétophone, un certain Edison, qui est mort en 1941, il n'y a pas encore tellement longtemps. Et cet homme était un croyant, et j'ai pu lire une histoire à son sujet. Il attendait le Seigneur, tandis que ses collègues savants se riaient de lui au laboratoire en lui disant « Mais écoute, mon cher, ça ne va pas du tout dans la tête. T'as certainement des papillons sous l'abat-jour. Tu penses que tu vas partir comme ça un jour dans le ciel, mais qu'est-ce qui t'arrive? Reviens sur terre. » Et lui disait « Mais oui, le Seigneur va venir chercher à lui son Église pour que nous soyons avec lui pour l'éternité dans son ciel d'amour, de paix, de sérénité, de gloire. » Et un jour qu'on lui rit étonné, Edison avait dit à ses collègues savants au laboratoire, « Écoutez, restez quelques moments ici, je ne tarde pas. » Il était allé dans la pièce à côté pour en revenir avec une caisse en main et pour la poser sur une table. Puis il était allé chercher un puissant aimant. Et puis il avait invité alors ses collègues à venir vers lui pour lui dire « Écoutez, je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit. Vous êtes savant comme moi, mais examinons ensemble quelques instants ce phénomène naturel du magnétisme physique. » Et il avait approché lentement un puissant aimant de cette caisse qui contenait du sable mélangé avec de la limaille de fer. Il y avait eu de la limaille de fer dans le sable, à la surface du sable, et tout à coup, à une certaine position de l'aimant, vis-à-vis de la caisse, tout à coup, le sable dans la caisse s'était mis à bouger. Mais la limaille était encore restée dans la caisse. Mais le sable s'était mis à bouger. Ce sable qui bouge, illustration des signes des temps. Oh, ces signes des temps, le sable ne bouge-t-il pas? Aujourd'hui, de par le monde, nous n'avons pas le temps d'énumérer les signes des temps. Mais je peux vous dire que nous sommes entrés dans ces temps que la Bible appelle les derniers sur le fondement de la parole de Dieu, ne serait-ce qu'à propos du sida, n'est-ce pas, et de ces nouvelles pestes qui nous font trembler. Le Christ a dit, dans les derniers temps, il y aura des pestes. Il y aura des famines. Non pas que le Christ le veuille, cela. Mais tout ceci résultant des voies, des chemins que les hommes se sont autorisés à emprunter sans lui. Il a parlé de guerre, de bruit de guerre, sans commentaire. Et tant d'autres signes de violence, d'insécurité, d'angoisse immense, à tel point que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. C'est Jésus qui a dit cela, lui qui a parlé le plus d'amour. Seulement il nous a tenu le langage de la vérité, prépare ton avenir. Et si tu veux que ton avenir soit avec le Seigneur, prépare-le ce soir. Viens au Christ ce soir. Le sable de la caisse de ce monde qui bouge encore et qui bouge plus que jamais les signes des temps. Puis Edison d'approcher d'un peu plus près ce même aimant de cette même caisse. Alors toute la limaille de fer présente là avait été littéralement happé à l'aimant. Edison alors, serez-vous trouvé dans le jour du retour de Christ, dans la caisse de ce monde, limaille de fer ou grain de sable? La question était précise. Et vous savez, parce que vous êtes savant comme je le suis, vous savez que l'aimant n'a attiré que la limaille, parce que l'aimant n'attire à lui que ceux qui lui correspondent. Est-ce que vous correspondez au Seigneur pour le jour de son retour? Et d'ajouter, l'aimant n'attire à lui que ceux qui est de la même nature que lui. de la même nature que lui. Que ce qui correspond à l'aimant, bien entendu. La Bible veut que nous correspondions au Christ. De quelle façon? En le recevant en nous pour notre sauveur personnel. Est-ce qu'il est entré chez vous? La Bible dit que pour correspondre au Christ, le divin aimant, il faut avoir son péché, il faut avoir eu son péché évacué, pardonné, liquidé par la croix sur laquelle il l'a expié à notre place. Est-ce que ton péché t'a été pardonné vraiment, totalement, radicalement, définitivement? Oui. Est-ce que réellement tu peux regarder Dieu en face? Parce que pardonné. Est-ce que l'Esprit de Dieu, qui est comme la projection de Christ, n'est-ce pas, en nous, parce qu'il a dit lui-même qu'il viendrait faire sa demeure en nous, par son Esprit. Oh, le Christ a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Son Esprit qu'il nous envoie le représente. Et son Esprit nous change, nous donne de correspondre au Christ. Il nous donne d'être changés complètement et d'entrer en nouveauté de vie. Est-ce que l'Esprit de Dieu vous a visité? Est-ce que votre péché a été pardonné? Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous êtes, j'allais dire, animé de la vie du Seigneur? La Bible dit que tout chrétien a été rendu participant de Christ. Ah, il y a là de quoi faire un certain point. Oui, la Bible dit aussi que tout chrétien a été rendu participant de la nature divine. Est-ce que c'est votre cas? Alors, il faut faire le point ce soir. C'est très important. Le Seigneur revient. Il est à la porte. Les signes sont là pour l'annoncer. Serons-nous trouvés? Alors, c'est à nous d'y voir clair. L'émail de fer au plan spirituel, correspondant à l'aimant, ou bien grain de sable. C'est-à-dire, sauvé ou perdu. Et ceci, réellement, doit être saisi maintenant. Mais comment correspondre au Christ? De la façon suivante, la Bible dit que lors de sa première venue, c'était pour nous sauver qu'il était venu. Et pour ce faire, il nous a offert sa vie sur la croix, son sang, dans un sacrifice abominable d'horreur. Je l'ai dit hier soir pour ceux qui étaient des nôtres, tout couvert de poussière, de sueur, de sang. Une vraie loque humaine pour toi, pour moi, au plan personnel, ayant pris nos péchés comme si nos péchés à nous avaient été les siens, pour les expier à notre place, ne pouvant rien faire nous-mêmes pour nos péchés. Il est venu pour s'en charger, pour s'en occuper, pour en régler la question de manière définitive. Mais quelle chance, quel amour! Il n'y a donc plus à hésiter. Le Christ a tout fait pour que nous soyons sauvés. Et la Bible dit que ceci, ça n'est que pour ce monde que nous espérons en lui. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le chrétien est quelqu'un qui a la tête bien entre les deux épaules, c'est clair. Et il a aussi les pieds bien sur la terre, c'est vrai. Mais son cœur est au ciel. Où est-ce qu'il est ton cœur? Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Seulement, voilà, notre cœur peut-être, je ne sais pas si on est jeune dans la moto, n'est-ce pas, ou dans le tiercé, dans ces jeux d'argent qui représente un phénomène social considérable. Je suis en train de les étudier pour pouvoir prêcher sur ce plan, parce que ça devient une énormité en France. Je ne sais si c'est le cas aussi parmi vous. Tout ceci pour nous divertir. Vous savez ce que signifie en français, en bon français, le mot divertir ? Le mot divertir, vérifiez-le hein, dans votre dictionnaire en rentrant. Le mot divertir signifie très exactement chercher à se détourner de ce qui est l'essentiel. Et nous ne cessons de vouloir nous détourner de ce qui est l'essentiel. Et cette réunion a voulu nous ramener à l'essentiel, qui est Jésus-Christ, la rencontre avec lui et le salut qu'il offre gratuitement ce soir, puisqu'il en a payé le prix. C'est gratuit. C'est un cadeau. Vous rentrez à la maison sauvés ce soir par grâce. Mais aussi, faut-il d'abord reconnaître que vous êtes un pécheur. J'ai dû le reconnaître pour moi-même, voilà, 43 ans, je vous l'ai dit, j'avais 18 ans. Ça n'avait pas été facile. Mais le Seigneur a fait que, pour finir, j'avais pu le reconnaître. Que le Christ est véritablement venu pour notre...